Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Mike. Et Mike a attiré mon attention en m'envoyant un email. Et son email disait, je cite, « De formation ingénieur technique, j'ai appris le marketing en 6 mois, essentiellement grâce à ta formation, le déclic. » Ferme les guillemets. Évidemment, j'ai tout de suite été intrigué par son histoire, notamment le fait que cet ingénieur apprenne une mentalité différente, qui est la mentalité de marketeur et la mentalité de vendeur. Et vous allez voir que dans l'émission, Mike nous rappellera que pour beaucoup d'ingénieurs, et il en faisait partie, on peut avoir une vision assez condescendante du marketing en se disant que si le produit est bon, eh ben, il devrait se vendre tout seul. Et c'est intéressant de voir que Mike met les deux en opposition. Et bien sûr, j'étais intrigué par le fait qu'il avait utilisé ma formation Le Déclic pour avoir ce switch-là. Donc, je lui ai demandé ses chiffres. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'avant, il gagnait l'équivalent de 1/3 de son salaire d'ingénieur avec son site. Aujourd'hui, c'est entre 1,5 fois et 2,5 fois son salaire chaque mois. Donc, pour ceux d'entre vous qui font les calculs à la maison, il a multiplié ses revenus par x5 ou x8 en quelques mois. Et j'ai tout de suite voulu en savoir plus sur cette histoire parce que c'est un témoignage réel qui ne vous vend pas du rêve. C'est l'occasion pour moi de rentrer dans les détails. Donc, je voulais aller plus loin que ce que je fais d'habitude sur mon site, c'est-à-dire quand quelqu'un a un bon résultat avec une formation, eh ben, je lui demande, tiens, tu ne voudrais pas prendre une petite vidéo en selfie comme ça avec ton iPhone et me raconter en 2 minutes le problème que tu avais, ce que la formation t'a apporté. Ce qui est un modèle de témoignage assez classique. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus en profondeur dans l'histoire de Mike? Pas juste parler de la formation qu'il a faite, mais parler de ce qu'il avait avant, ce qu'il avait après, ce qu'il a fait, ce qu'il a changé, ce qu'il a appris et comment est-ce que son site a évolué à mesure qu'il a appris cette mentalité de marketing. Donc le site de Mike se trouve dans le domaine de la séduction. Son site s'appelle dragueurdeparis.com. La séduction, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le podcast. Je pense qu'il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que c'est un domaine sur lequel moi j'ai une expérience particulière. C'est là où j'ai commencé avec mon premier site. Et donc, j'ai une familiarité avec ce domaine et je suis intrigué par les techniques marketing qui fonctionnent dans ce domaine-là en particulier, même si actuellement je suis plus actif sur ces marchés. Et la deuxième raison, c'est que c'est un marché qui est très concurrentiel, mais à la fois où ça bouge beaucoup. Et c'est un marché où le marketing va être vraiment prédominant. Et donc, quand vous regardez ces gens-là qui opèrent dans le marché de la séduction, même si vous-même, vous n'êtes pas du tout dans le marché de la séduction, de la rencontre, ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous allez découvrir les techniques marketing qui fonctionnent sur un domaine très concurrentiel que vous pouvez appliquer sur d'autres domaines concurrentiels, comme le marketing, comme la santé, tous ces domaines où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, il y a des gros acteurs qui vont truster une grosse partie du marché, mais il se passe tellement de choses, il y a une telle ébullition dans le marché que si vous êtes quelqu'un qui est malin et qui réfléchit en termes de positionnement notamment, pour pouvoir trouver le bon angle pour rentrer dans le marché, vous allez pouvoir vous faire une place. Et vous allez voir que Mike qui arrivait ultra tard dans ce marché, dans l'échelle des choses, puisque la séduction, c'est un des premiers marchés à s'être vraiment développé sur Internet, sur la vente d'e-books, de formations, de coaching. Lui, il est arrivé il y a 1 an et demi, ce qui veut dire très tard à l'échelle du marché. Le marché était déjà bien mature, mais il a trouvé cet angle bien spécifique et il va nous en parler dans cet épisode. Et je pense que c'est en comprenant comment quelqu'un comme ça peut se positionner et créer un revenu intéressant sur un marché qui était déjà vu de l'extérieur complètement bouché, que vous allez découvrir que les opportunités de monter votre projet sont en fait beaucoup plus ouvertes que vous auriez pu le croire en faisant des recherches honnêtes et en vous disant, bah voilà, dans ma thématique, je sais pas, de la méditation, il y a déjà plein de monde. Ou dans ma thématique du yoga, ou dans ma thématique du sport, il y a déjà plein de monde. Il y a du monde dans toutes les thématiques qui fonctionnent, par définition, puisque si ça fonctionne, ça attire de la concurrence. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une ébullition, il y a un truc qui se passe et il y a une opportunité de vous prendre une petite tranche de ce marché en ayant un positionnement qui est intéressant. C'est ce qu'on va voir avec Mike. Et bien sûr, on mettra en lumière le rôle de la formation Le Déclic là-dedans, puisque Le Déclic joue énormément sur la définition d'un positionnement efficace et sur la manière dont vous allez communiquer ce positionnement pour augmenter votre taux de conversion, ce qui est le point central sur lequel Mike a vu des bénéfices. Donc dans cet épisode, on va parler de la mentalité d'ingénieur de Mike qui l'a bloqué au début de son business et comment est-ce qu'il a appris à ajouter une deuxième lentille à sa vision du monde et qui est une lentille de marketing et de vente. On va voir ce que Mike a changé sur son site pour démultiplier ses revenus, donc x5 à x8 selon les mois, sans augmenter son trafic. Et ça va être intéressant en matière de taux de conversion. On va voir pourquoi commencer par du coaching avant de vendre des formations en ligne. On va voir comment Mike s'est différencié dans ce marché ultra concurrentiel de la séduction. Et finalement, on va voir comment trouver des clients de meilleure qualité que vous soyez coach ou que vous soyez freelance, des clients qui vont vous faire confiance et qui vont suivre vos conseils sans poser de questions. Avant de se lancer dans l'épisode, un petit disclaimer que j'ai commencé à mettre parce qu'il y a toujours des gens qui se plaignent, c'est que voilà, Mike qui travaille dans le milieu de la séduction, il a une manière de parler de ces sujets qui est peut-être plus crue et plus directe que ce dont vous avez l'habitude dans votre vie de tous les jours. Donc il y a certains termes et langages dans cet épisode qui sont un peu plus adultes entre guillemets. Enfin, on n'est pas sur du Jean-Marie Corda pour ceux qui ont vécu cet épisode, mais voilà, il y a les termes qui sont là et je préfère le prévenir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent les podcasts dans la voiture avec d'autres personnes. Si le domaine de la séduction et tout ça vous dérange, vous met mal à l'aise, vous êtes libre de ne pas écouter cet épisode et d'aller écouter l'épisode précédent ou l'épisode suivant. J'aime bien mettre ce petit disclaimer au départ, puisque comme ça, quand les gens viennent me dire que c'est scandaleux et que mon invité a des propos qui sont inacceptables, au moins, je vous aurais prévenu. Pour moi, il n'y a rien de scandaleux absolument dans cet épisode, il n'y a rien d'inacceptable, mais certaines personnes sont devenues extrêmement sensibles. Et comme c'est un podcast de marketing, je ne vais pas non plus vous surprendre avec des choses qui n'ont pas été attendues et n'ont pas été averties. Donc voilà, il y a un petit peu de langage cru dans cet épisode, rien de scandaleux. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Mike de DragueurDeParis.com. Salut Mike et bienvenue sur le podcast.
Salut Stan, merci de m'avoir invité dans ton émission.
Alors Mike, je t'invite aujourd'hui pour parler de différents sujets. Est-ce que tu peux commencer par présenter un peu ce que tu fais sur Internet ?
Alors bon, pour me présenter, en fait j'ai deux casquettes. Donc j'ai une première casquette j'ai un emploi principal de chef de projet, donc du lundi au vendredi, un petit peu comme tout le monde, on va dire. Donc, j'ai un travail normal, CDI, etc. Super. Donc ça, c'est ma première casquette. Ensuite, j'ai une deuxième casquette. Donc, c'est-à-dire que je tiens un site web qui s'appelle Dragueur de Paris, donc DragueurDeParis.com, et où j'exerce en fait en tant que coach en séduction et photographe. Et ça, c'est ma deuxième activité que j'exerce en parallèle de mon travail principal.
Donc ton travail principal, c'est dans un domaine, je sais que tu n'as pas envie forcément de donner tous les détails, mais c'est lié au marketing ou pas du tout ?
Absolument pas. En fait, je suis ingénieur de formation, donc je fais plutôt un métier technique. Je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait d'école de marketing, de vente, etc. Ça, c'est des choses, il y a 2 ans, c'est des choses que je ne connaissais absolument pas. À la base, j'ai un parcours technique d'électronicien, en fait. Et là, aujourd'hui, je travaille pour une grande entreprise française dans l'aéronautique, en fait. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir avec ni le marketing, ni ma deuxième activité de coach en séduction.
À propos de Dragueur de Paris, il y a deux chiffres qui m'intéressent. Que, dans les chiffres que tu nous avais donnés en préparation de l'interview, j'avais l'impression que tu as un trafic qui n'est pas super élevé. Tu as combien de trafic aujourd'hui sur le site ?
Alors, en fait, là aujourd'hui, en visiteurs uniques sur le site, je suis entre 300 et 400 visiteurs uniques. Et effectivement, ça, tu fais bien de poser cette question, parce que c'est une question que beaucoup de gens me posent. Parce que je connais des gens qui ont des sites web qui ont 1000, 2000 visiteurs par jour, des visiteurs uniques. Et c'est des gens qui génèrent moins de chiffres que j'arrive à le faire. Et en fait, c'est une raison toute simple, c'est je me suis jamais projeté sur le fait d'avoir des millions de visiteurs chaque mois sur le site. En fait, j'ai toujours été plutôt orienté sur la conversion. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai atterri sur ton site et que j'ai été amené à te connaître, puisque j'étais plus focus sur la conversion plutôt que l'explosion de trafic. Et c'est aujourd'hui comme ça, en fait, que j'arrive avec un trafic assez faible, finalement, à avoir des résultats vraiment intéressants. Justement, parce que je me concentre pas sur la visibilité, d'être visible sur tout l'Internet, mais en visant plutôt une niche et d'attirer plutôt des prospects qualifiés plutôt que d'attirer tout et n'importe quoi sur le site.
Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des résultats sur les chiffres d'affaires ?
Alors, au niveau de chiffre d'affaires, je vais te donner une fourchette. Donc, ce serait intéressant de faire le avant-après. Là, l'activité, je l'ai démarré il y a un an et demi, grosso modo. Il y a un an et demi, je devais générer un tiers de mon salaire d'aujourd'hui d'ingénieur, de mon travail principal, pour te donner une idée. Ça, c'est quand j'ai démarré il y a un an et demi. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente, etc. Donc, des compétences que je ne maîtrisais absolument pas et que je partais du zéro absolu. On pourra en reparler après. Et là, aujourd'hui, selon les mois, je suis entre une fois et demie et deux fois et demie mon salaire d'ingénieur d'aujourd'hui.
D'accord. Et c'est intéressant parce que tu compares ça du coup à ton salaire d'ingénieur. Mais la plupart des gens se diraient, tiens, bah, je monte un business en ligne pour quitter mon job. Est-ce que c'était une motivation pour toi?
Alors, en fait, c'est ça, il va falloir que je revienne un petit peu sur mon parcours pour que tu comprennes les raisons. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu une mode sur Internet, il suffit d'aller sur YouTube aujourd'hui, il y a un petit peu une mode où dans le sens, les gens essayent de quitter leur boulot justement pour devenir entrepreneur, pour devenir libre, etc. C'est un petit peu tout ce que tu peux voir sur YouTube. Je ne suis pas vraiment dans cette optique-là pour une très simple raison, c'est qu'aujourd'hui, je fais un travail qui me passionne. Je fais des choses que… Enfin, dans l'aéronautique, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. J'ai la chance de voler régulièrement, tu vois, de travailler sur des engins, des machines sur lesquelles tu peux pas travailler
quand t'es web marketeur.
Ouais.
J'ai pris souvent l'avion, mais pas souvent des trucs cool.
Voilà, c'était plus des petits avions. Là, c'était vraiment pour si je sors le jargon aéronautique, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais pour faire des vols VFR, bon, voilà, s'il y a des aéronauticiens qui écoutent, ils comprendront. Et donc, en fait, je fais un travail qui me passionne, sauf que derrière, bah, une fois que tu fais le travail, en fait, je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs trucs en même temps. Et donc, pour ça, je suis un petit peu obligé de revenir sur mon parcours pour que tu comprennes où je veux en venir. En fait, au début, donc, Dragueur de Paris, ça fait un an et demi, deux ans à peu près que le site est en ligne. Et au départ, c'était un blog, en fait. Donc, ça permettra après de faire la transition sur la partie marketing. Au départ, c'était un simple blog, tout simplement parce que je faisais partie de ce qu'on appelle la communauté de séduction, où c'est des gens qui s'entraident, qui racontent un petit peu leurs histoires de drague, etc. Et en fait, au départ, mon blog, c'était ça. C'était juste un blog où je racontais aux gens mes histoires de drague, tout simplement. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai fait ça en arrivant à Paris, puisque bon, je suis pas parisien d'origine. Ça fait un peu plus de deux ans que je suis sur Paris maintenant. Et au début, c'était ça. Donc, c'était un blog. Et ensuite, naturellement, quand tu passes ton temps à draguer, tu passes tes samedis à sortir en boîte, vendredi aussi, que toute la semaine, tu utilises des applications de rencontre pour rencontrer des nanas, etc. Il arrive un jour où tu te poses, tout simplement. Donc, c'est arrivé vers début 2017 de mémoire. Donc, c'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai décidé de me mettre en couple et je suis toujours avec cette personne aujourd'hui. Et quand tu fais ça, tu es obligé d'arrêter la drague, forcément. Et donc là, tu arrêtes la drague. Et du coup, tu te regardes, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai mon boulot, j'ai ma femme, j'ai mes potes. OK, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je m'étais vraiment posé une question existentielle sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, comme j'avais pas mal de choses à enseigner justement au niveau drague, il y a des gens qui m'ont dit, bah tiens, pourquoi tu ne montrais pas un site de séduction pour commencer à faire du coaching, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai transformé le blog en un site qui s'est peu à peu professionnalisé. Et au début, évidemment, je ne générais pas de revenus, hein, le temps de se faire connaître. Et petit à petit, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à toi, à venir sur ton site, etc. Sauf qu'il arrive un moment où tu atteins un plafond, c'est-à-dire que tu arrives à générer quelques centaines d'euros, mais il y a un moment où tu arrives à un plafond et tu te rends compte que pour passer ce plafond, il va falloir que tu t'intéresses à d'autres choses que ce que tu sais faire.
Tu veux dire que la drague, ça t'a permis d'avoir tes premiers trafics, d'avoir les bases. Quand tu faisais quelques centaines d'euros, c'était quoi? C'était du coaching?
Ouais, c'était que du coaching au début, je faisais que ça.
Et donc, le plafond, tu te dis, il faut que j'apprenne des compétences. Ça serait quoi les compétences dont tu as besoin pour passer à l'étape suivante?
Alors, en fait, il y a deux grosses compétences qui me manquaient. La première, c'était la vente. Et ça, je l'ai particulièrement ressenti quand j'ai commencé à faire des entretiens de coaching, en fait, des entretiens préliminaires. C'est-à-dire, soit tu rencontrais physiquement la personne, soit tu l'avais au téléphone. Et en gros, tu devais expliquer à l'autre personne pourquoi elle devrait te payer 500, 1000, 1500 euros pour que tu la coaches. Et au début, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'y allais en mode ingénieur. J'arrivais, je disais, alors ouais, les coachings, il y a ça, il y a machin et tout. Et en fait, la mentalité d'ingénieur, c'est pas la mentalité de vendeur. La mentalité d'ingénieur, tu vas un peu lister toutes les fonctionnalités. Tu vas dire, alors le coaching, c'est bien parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, machin. Mais en fait, l'autre en face, il s'en fout. C'est pas ça qu'il veut. Et au début, j'ai pris des gros, gros échecs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, la première compétence qui me manquait, c'était la vente, tout simplement. Ça, c'était le premier truc. Et ensuite, une autre compétence qui me manquait, c'était par rapport au site, tout simplement. Bah, c'était que j'avais aucune notion marketing. Donc, j'avais des pop-ups dans tous les sens, des sidebars, des menus un peu partout, etc. Il n'y avait pas vraiment de cohérence, tout simplement, parce que j'étais toujours dans ma mentalité d'ingénieur où je me disais, je vais mettre le plus de trucs possible. Comme ça, les gens, ils vont être impressionnés. Ils vont se dire, waouh, ouais, ce site, il est trop bien. Et quand tu es ingénieur, tu raisonnes un petit peu comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je m'intéresse au marketing parce que sinon, ce n'est pas possible d'évoluer, tout simplement.
Donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour acquérir ces compétences qui te manquaient?
Alors, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, je pense. J'ai sorti Google et j'ai commencé à taper comment convertir davantage, comment avoir plus de trafic, comment gagner plus d'argent, des choses comme ça. J'ai commencé à taper des mots-clés comme ça. Et petit à petit, en naviguant, on tombe sur divers sites marketing. C'est comme ça que je suis tombé sur le tien. Et donc, j'avais commencé par lire des articles, tout simplement, à faire quelques petites corrections à droite, à gauche sur le site. Ça a amélioré la qualité du site au début, mais j'avais toujours ce plafond parce que je n'avais pas, en fait, le mental du marketeur, c'est-à-dire la notion de construire un système derrière le site. J'étais encore en mode, je vais corriger des petits trucs à droite, à gauche. À l'époque, j'étais en mode comme ça, mais assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne un peu de hauteur, que j'adopte une vue d'ensemble et que je construise un vrai système derrière et que je fasse en sorte de convertir davantage justement les gens. Et c'est avec ces notions-là que j'ai atterri sur ton site et notamment tes vidéos aussi à l'époque puisque tu venais de démarrer ta chaîne et tes premières formations.
Donc, quand tu parles d'un système, c'est un système de quoi? De pages de vente, d'emails de relance, ce genre de choses?
Alors ouais, il y a ça, mais il y a aussi la notion de se dire le mec qui ne connaît pas le site, il arrive sur le site, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut voir? Où est-ce que je veux l'amener? Alors qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Par exemple, j'avais, imaginons, j'ai un article qui m'amène, 100 visiteurs par jour. Et avant, qu'est-ce que je faisais? Dans cet article, je mettais des liens partout. Je mettais des liens partout. Je me disais, c'est bon pour le référencement. Le mec, il va voir qu'il y a plein de trucs, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à changer d'état d'esprit. J'ai commencé à… c'est un peu ce que tu enseignes en marketing. C'est-à-dire, le mec, il arrive sur la page. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Quel est le message à faire passer? Et qu'est-ce que je veux faire de cette personne qui est potentiellement intéressée par le site? Ça, c'est une réflexion que je n'avais pas du tout à l'époque. Et j'ai commencé justement à raisonner comme ça. Et c'est à partir de là qu'il y a un changement qui a commencé à se faire, simplement en changeant d'état d'esprit, tout simplement.
Donc, pour illustrer pour les gens un concept qui est intéressant ici, c'est un truc que moi j'appelle la règle d'or des conversions, c'est-à-dire que si tu veux être efficace en matière de conversion sur une page, il faut que la page ait un seul objectif. Donc si ta page c'est à la fois une page de vente et à la fois elle demande de liker ta page Facebook et à la fois elle parle d'un autre service que tu proposes, d'un coup les gens vont être perdus, en fait ils vont rien faire et ils vont se perdre dans les méandres et que donc pour chaque page tu devrais faire la réflexion de dire ok, quel est l'objectif sur cette page et de diriger toute l'attention du visiteur sur cette action-là avec différentes techniques, à la fois dans la manière dont tu vas écrire, mais aussi potentiellement la mise en page de manière à ce que cette action-là, elle ressorte, notamment avec le contraste, avec les couleurs, les boutons, etc. Tout un tas d'éléments qui sont intéressants. Et c'est vrai que c'est un truc qui, au départ, peut être un peu contre-intuitif, surtout, j'imagine, si tu viens d'une mentalité qui est trop interne en fait à ton propre site. Si tu es ingénieur et tu penses vraiment de l'intérieur de ton produit, tu peux parfois avoir du mal à voir ce regard interne et à comprendre qu'en fait, si tu n'as pas un message qui est très simple et très clair sur une page, les gens sont très rapidement perdus et en fait, ils glissent un peu partout et ils sont accrochés par rien.
Tout à fait. Je peux même glisser une petite anecdote sur ça. Et je me rappelle effectivement quand j'essayais d'augmenter la pertinence du site. Au départ, j'étais un petit peu dans la mentalité du programmateur, parce que voilà, je viens d'un corps technique, donc les trucs qui m'intéressent, WordPress, HTML, machin, ça, c'est des choses qui me parlent. Et je m'en rappelle une fois, ça devait être la première fois, je crois, où j'avais rencontré une personne qui est mon partenaire, qui est un de mes partenaires aujourd'hui, parce que je travaille avec plusieurs personnes. Et à un moment, on parlait de mon site, il me demandait, voilà, c'était quoi ma stratégie, etc. Et au tout début, quand on s'était rencontré, je commençais à peine à m'intéresser au marketing. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai commencé à aller faire des trucs du genre, ouais, j'ai réussi à diminuer le temps d'affichage de 2 secondes à 1,2 secondes. J'ai diminué le poids de la page. Maintenant, on est passé de 2 mégaoctets à 1,3 mégaoctets. Maintenant, j'ai monté dans les résultats parce que ma page, elle est légère, etc. Et tout. Et j'ai commencé à partir dans un discours de technique comme ça. Et puis tout de suite, il m'a arrêté, il m'a dit « Ah non, mais je te le dis, c'est pas le poids de ta page qui va t'amener des clients. C'est pas ça qui va faire que les clients ils vont aller chez toi. C'est d'autres trucs. » Et il m'avait mis un bon coup de pied au cul sur ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est temps d'affichage, etc., c'est plus vraiment des choses que je regarde aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne jurais que par ça. Quoi. Avant de m'intéresser à des choses comme tu as dit, est-ce que c'est pertinent de mettre un bouton de like Facebook? Est-ce que c'est pertinent de mettre un pop-up sur cette page-là? Pourquoi est-ce que cette pop-up, je ne devrais pas le mettre sur une autre page? Est-ce qu'on parle d'une page de vente ou d'une page d'acquisition? Et ça, c'est des choses que j'ai appris après, du coup.
Donc, tu as parlé tout à l'heure d'un avant-après. Qu'est-ce qui a fait pour toi la différence et qu'est-ce que tu as changé et qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Alors, le avant-après, en fait, il se résume au jour où j'ai acheté ma première formation, tout simplement. Donc, c'est chez toi que j'avais pris, c'était la formation du déclic. Alors, je dis ma première formation parce qu'après, j'ai acheté d'autres formations un petit peu partout. Et c'est la première fois que j'ai acheté une formation en ligne. Je n'avais jamais fait avant. Et en fait, ce qui m'a amené à me lancer là-dedans, c'est tout simplement, c'est un peu ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens que tu es dans un plafond et que si tu veux casser ce plafond, il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de méthode de pensée. Et voilà, il va falloir donner un gros coup de poing dans la vitre, en gros. Je sentais que j'étais à ce stade-là. Mmh. Et je me suis rendu compte aussi que c'est pas en passant des heures sur YouTube à regarder des vidéos à droite à gauche que j'allais passer justement ce plafond de verre. Et c'est à peu près, les astres étaient bien alignés à ce moment-là, c'est à peu près à ce moment-là, en fait, j'étais abonné à ta liste email, je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et sur ta liste email, tu lançais justement ta formation, le déclic. Et quand j'ai regardé le contenu de la formation, en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin parce que dedans, il y avait tout. Ce qui me manquait et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que justement, c'était un tout en un en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire chier de passer des heures sur YouTube à droite à gauche, du coup, j'avais une cohérence d'ensemble dans une seule formation et j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et au début, je me rappelle, j'étais un peu sceptique parce que les formations en ligne, c'est un truc que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait, des formations en ligne. Je connaissais les e-books, je connaissais les 2-3 vidéos que tu fais comme ça sur une thématique donnée. Mais le thème de formation en ligne, c'est quelque chose que je trouvais complètement abstrait. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'étais assez méfiant au départ. Mais finalement, j'ai tenté le truc. Hein. Faut toujours prendre des risques, comme on dit dans la vie. Donc j'ai tenté. Et du coup, j'étais à la fin, j'étais hyper content parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et ensuite, le après, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mise en place de tout ce que tu enseignes justement dans la formation. Parce que j'ai suivi la formation et tout de suite après, j'ai mis en place parce que c'était l'étape suivante. Et à partir de là, le site, il a radicalement changé. Il a complètement changé de forme, autant dans le fond que la forme. J'ai écrit un certain nombre d'articles, j'ai tout changé dans les menus, les stratégies, etc. Je me suis posé avec une feuille de papier, j'ai dit « Ok, quel est l'objectif du site? Qu'est-ce que je veux faire ?» Et toute cette réflexion a amené à une transformation complète du site. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est mon nombre de visiteurs uniques à l'époque, il n'a pas changé. J'étais toujours, à l'époque, je devais être à 150-200 visiteurs uniques par jour, pas plus. C'était le chiffre que j'avais à l'époque. Mon nombre de visiteurs uniques n'a pas changé. Par contre, comme j'ai changé la méthode de conversion derrière, les autres métriques, c'est-à-dire chiffre d'affaires notamment, ont complètement changé à partir de là.
C'est quoi les points qui ont fait la différence en termes de conversion? Est-ce que c'est la conversion vers les emails? Est-ce que c'est directement la conversion vers la vente?
Alors, pour moi, le facteur numéro un qui a fait la différence, c'est on va dire, la réflexion stratégique. Quelles pages vont être des pages d'acquisition et quelles pages vont être des pages de vente? Parce que avant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout en un. Dans les pages de coaching, j'essayais à la fois de faire de l'acquisition et de la conversion et de la vente. Et dans les articles aussi. Dans les articles, c'était de l'acquisition. Mais dans l'article, j'essayais aussi de convaincre aux gars de prendre des coachings, de faire ci, de faire ça. Et en fait, je faisais du tout en un dans toutes les pages, tous les articles. Et aujourd'hui, le facteur numéro un justement de changement, c'est de dire « Ok, cet article, cette page, ça va être de l'acquisition. Ça va être de la vente. » De séparer clairement les deux.
Donc essentiellement, de mettre en place une forme de tunnel de vente avec différentes étapes qui ont chacune une fonction et qui vont chacune avoir un message qui est bien clair.
Tout à fait.
Et faire passer le prospect d'une étape à l'autre.
Oui, avec ce que tu as dit juste avant, donc une page, un objectif.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends sur le site ?
Alors, ce qu'on vend principalement, c'est du coaching, tout simplement. Donc, il y a deux types de coaching qu'on vend. Il y a le premier, ce qu'on appelle des refontes de profil, donc principalement pour Tinder, mais plus généralement pour toutes les applications de rencontre. Où en fait, là, je combine deux compétences. La première, c'est celle de coach en séduction. Et la deuxième, c'est celle de photographe portraitiste, parce que je suis aussi photographe depuis plusieurs années. Et du coup, je fusionne ces deux compétences pour faire ce que j'appelle une refonte de profil. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont sur des applications de rencontre, Tinder, Adopt-un-Mec, Mythic, ce genre de choses, qui n'ont pas de résultats, tout simplement, qui n'ont pas forcément de match, qui n'ont pas de rendez-vous, qui n'ont pas de numéro non plus. Et l'objectif de ce coaching, c'est de débloquer les gens pour qu'ils passent, d'un grand vide à une explosion de matchs et de rendez-vous. Ça, c'est l'objectif. C'est le coaching qu'on propose et c'est celui qui rencontre le plus de succès, tout simplement parce que c'est le focus principal du site. Le focus principal du site, il est orienté site de rencontre, en fait. Et du coup, c'est ce qui intéresse principalement les gens. Ensuite, le deuxième coaching qu'on propose aux gens, c'est, on appelle ça du coaching street, c'est-à-dire ça s'adresse à des gens qui ont peur d'aborder des filles dans la rue, qui n'y arrivent pas seuls et qui ne savent pas comment faire et qui ont envie d'être accompagnés. Et à ces gens-là, on se propose de les accompagner dans la rue pour justement casser ce blocage. Et c'est quelque chose qui est plus particulièrement pertinent aujourd'hui parce que bon, tu as dû voir dans la presse, il y a pas mal de scandales dans la presse, MeToo, compagnie, qui font que les hommes, ils ont encore plus peur qu'hier et avant-hier d'aller voir des filles dans la rue parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont finir au tribunal, qu'ils vont être arrêtés, qu'ils vont aller en prison, etc. Et nous, on est là aux gens pour expliquer que non, que les femmes sont toujours des femmes, elles sont toujours en train de chercher des hommes voilà, qui ont des couilles, qui ont du courage et qu'on peut toujours faire des rencontres dans la rue. Donc ça, c'est le deuxième coaching qu'on propose. Et donc voilà, la première chose qu'on propose aux gens, c'est des coachings. Ensuite, il y a deux autres choses qu'on propose. Il y a une chaîne de podcast que j'entretiens qui est scindé en deux, c'est-à-dire j'ai une chaîne de podcast qui est gratuite, qui est accessible sur YouTube, SoundCloud, etc., où en fait, je raconte des expériences de drague et c'est des récits de drague qui sont coupés en deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est accessible gratuitement sur toutes les chaînes, etc. Et la deuxième partie de ce podcast qui est accessible uniquement sur abonnement et en privé, tout simplement parce que dans cette deuxième partie, on parle de sujets un peu plus underground, un peu plus chaud, c'est-à-dire on va parler de sexe, hein, pour dire les choses crûment. Et tout simplement, je ne peux pas mettre un contenu pareil en ligne parce que derrière, qu'est-ce qui t'attend ? Bah, c'est la censure, tout simplement. Donc, je suis obligé
de
le mettre.
Donc, c'est la même histoire qui se continue, mais en privé.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est...
À quel moment est-ce que tu coupes le narratif pour passer sur la version privée qui coûte du coup 7 € par mois ? C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors, ça dépend du récit. Des fois, c'est au moment du rendez-vous. Des fois, c'est dans le récit quand la nana arrive chez moi. En fait, je coupe à partir du moment où on va parler un petit peu plus cru. Par contre, d'accord, ce que je fais dans chacune des deux parties et surtout dans la chaîne gratuite, c'est-à-dire… L'objectif, c'est pas de faire un podcast gratuit et pour dire et ne rien apprendre aux gens et dire aux gens, si vous voulez apprendre quelque chose, il faut aller sur la chaîne d'abonnement. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'apprendre des choses aux gens, y compris dans la première partie du podcast, donc c'est-à-dire la partie prise de numéro, rencontre, comment faire pour avoir le rendez-vous. Là, on va apprendre des choses aux gens. Donc, l'objectif, c'est que les gens repartent avec du matériel. Par contre, dans la deuxième partie, là, c'est pour aller plus loin. Là, on va parler sexe, on va parler cul, etc. Et ça s'adresse à ces gens-là qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, ça, c'est un des produits qu'on propose. Donc, c'est une chaîne de podcast. Il y a également des formations en ligne que je crée moi-même sur le pareil focus sur les applications de rencontre. Et ça fait pas très longtemps que je me suis lancé dedans. Ça doit faire 2 mois à peu près. Et là, j'essaie de créer grosso modo une nouvelle formation toutes les deux à 3 semaines. Donc, en gros, ça, c'est les 3 choses qu'on propose aux gens. Dernière chose également, j'en parle rapidement, on a également une communauté privée qui est accessible uniquement à mes élèves, aux coachés. Par contre, des gens qui n'ont jamais fait de coaching chez nous peuvent rentrer dans cette communauté privée, pareil, sur abonnement.
D'accord. Et ça fait beaucoup de choses, tu as en plus un boulot à côté. Comment est-ce que tu fais pour jongler tout ça? Et c'est quoi le rôle des autres personnes qui sont dans ton équipe dans tout ça?
Alors, effectivement, tu fais bien de le préciser. On peut avoir l'impression que je suis une machine à travailler, machin. Donc, c'est un petit peu vrai. Hein. Je suis quand même un grand bosseur. Mais je ne suis pas tout seul parce que je ne pourrais pas faire ça tout seul. Hein. C'est juste pas possible. Donc, aujourd'hui, je suis entouré de 4 personnes. Je suis entouré de 4 personnes qui s'occupent majoritairement des coachings parce que tout simplement, comment je fais aujourd'hui pour arriver à dégager du temps pour entretenir les podcasts, la communauté et les formations en ligne, c'est tout simplement en déléguant une partie des coachings en fait. Donc aujourd'hui, je me fais entourer de plusieurs autres personnes, chacun avec sa spécialité. Et du coup, quand une personne candidate à un coaching, en fonction de la formule qu'elle va prendre, eh ben, je vais pouvoir l'orienter vers telle ou telle personne. Donc, il y a une personne qui s'occupe spécifiquement des coaching street. Il y en a une autre qui s'occupe plus spécifiquement du développement personnel. Il y en a une autre qui s'occupe de la partie relooking aussi, puisque c'est quelque chose qu'on propose dans nos coachings. Et là, aujourd'hui, au niveau des coachings, je m'occupe uniquement de la partie vente et la partie shooting photo. Donc, c'est les activités qui me reste aujourd'hui et que je pense déléguer également à l'avenir.
Donc, c'est quoi la vision sur le futur pour ce site? Comment est-ce que tu verrais ça évoluer, disons, sur un horizon de 1 à 3 ans?
Alors, 1 à 3 ans, c'est un petit peu large. Là, je peux te dire la vision sur les 2-3 prochains mois, puisque je raisonne plutôt en termes de mois, parce qu'en termes d'années, c'est un peu large. Au début, je le faisais. Je disais, OK, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, etc. Là, je le fais un peu moins parce que tout simplement que chaque année, j'ai l'habitude de changer mes plans. Donc, je me suis rendu compte que ça ne servait pas forcément à grand-chose. Là, au niveau des prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis en train de chercher un photographe pour d'abord pour m'aider pour les shootings photos et les refonds de profil qu'on organise. Et à terme, pour me remplacer totalement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de passer davantage de temps à produire du contenu en ligne. Et comme je ne peux pas tout faire, bah, du coup, ça m'oblige en fait à recruter d'autres personnes pour s'occuper des coachings à ma place. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est ça. J'ai envie de produire davantage de contenu en ligne. Mais pour ce faire, bah, il faut que j'arrive à mettre les coachings en pilote automatique. Donc, ça, c'est la vision des 2-3 prochains mois. Ouais.
Et à terme, tu remplacerais une partie de ce revenu coaching du coup par les formations en ligne qui sont un peu la nouvelle stratégie que tu as lancée récemment?
Ouais, alors effectivement, il y a 6 mois, la stratégie, c'était le coaching. On mettait le focus sur ça. Et au bout d'un moment, on a envie de tester d'autres trucs. On a dit, bon, le coaching, c'est bien, on aide les gens, on transforme la vie de certaines personnes. Parce que c'est toujours un plaisir à chaque fois de recevoir une personne, qu'elle est au fond du trou, qu'elle dise, ouais, mais je ne plais pas aux femmes, etc. On s'occupe de cette personne et 2 mois après, elle est en couple. Ça, c'est un truc qu'on a assez souvent. On est très fiers de ça, mais tu as quand même envie de tester d'autres trucs. Et donc, à travers les formations que j'ai prises chez toi et ailleurs, j'ai vu l'existence ce qu'on appelle les formations en ligne. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ça, je vais créer mes formations en ligne et je vais voir où ça mène. Et du coup, il y a 6 mois, le focus, c'était le coaching. Et aujourd'hui, le focus, c'est les formations en ligne. Et ça se répercute aussi sur le chiffre d'affaires parce que on peut pas accepter tout le monde en coaching. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté les prix. J'ai augmenté les prix non pas parce que pour le plaisir d'augmenter les prix, mais tout simplement pour avoir moins de gens qui postulent. Donc, du coup, ça permet d'avoir une charge de travail qui soit supportable. Et du coup, en ayant ça, plus les autres personnes qui s'occupent des coachings, ça me permet de passer davantage de temps à créer des formations en ligne, puisqu'il y a 2-3 mois, j'ai décidé que le focus allait être sur les formations en ligne parce que je veux augmenter le chiffre d'affaires qui provient de ces formations avec pour objectif de moins dépendre des coachings. Et donc, aujourd'hui, l'objectif est à peu près atteint puisque ce mois-ci, j'ai généré plus de chiffre d'affaires avec les formations en ligne qu'avec les coachings. Donc, la transition, elle s'est faite en quelques mois.
Ah, c'est cool. Un des éléments que je pousse pas mal dans le déclic et que je pousse pas mal à beaucoup de gens qui sont des clients chez moi, c'est l'idée de commencer par du coaching, notamment parce que ça va t'apprendre beaucoup plus rapidement ce que veulent les gens et qu'ensuite, tu vas pouvoir utiliser en fait tout ce que tu as été payé pour apprendre en faisant du coaching, c'est-à-dire poser des questions aux gens, comprendre leurs besoins et trouver les solutions qui les aident. Tu vas pouvoir utiliser tout ça pour créer des formations en ligne. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation que cette transition vers les formations s'est fait beaucoup plus facilement parce qu'en fait, tous ces besoins et toutes ces problématiques et toutes ces méthodologies, tu les connaissais sur le bout des doigts via tous les coachings que tu avais déjà fait?
Ouais, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je m'en rappelle très bien quand on s'était, quand on s'était rencontrés dans les dîners que tu avais organisés à Paris il y a un an et demi. À un moment, tu m'avais parlé de ça, tu m'avais dit effectivement, un des avantages des coachings, ça te permet justement de comprendre le besoin de tes clients tout en étant payé pour le faire. Et c'est un petit peu ce que je faisais avec les coachings, puisque au-delà de gagner ta vie avec ça et d'aider concrètement les gens, en fait, tu apprends à connaître de quoi ont besoin les gens. Et donc là, aujourd'hui, des coachings, on en a fait plus de 100 en un an et demi, grosso modo. Et justement, avec ces plus de 100 coachings, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une compréhension exacte de ce que veulent les gens. Et cette compréhension, on la répercute directement sur les formations en ligne, puisqu'on sait de quoi ont besoin les gens. Après, j'ai pas non plus une science exacte sur ça. De temps en temps, ça m'arrive d'avoir des surprises aussi, puisque tu penses toujours que les gens ils ont besoin de tel ou tel truc. Mais au fil des mois et des années, les besoins des gens, ils évoluent. Et aujourd'hui, ce qui me permet de constamment m'actualiser sur le besoin des gens, alors déjà, il y a les coachings en eux-mêmes. Et le deuxième truc, j'en ai pas trop parlé avant, mais c'est les emails aussi. Et les emails, quand tu regardes le sujet dont tu parles et tu regardes les taux d'ouverture, les taux de clics, ça te permet d'avoir des surprises de fou, des fois.
Qu'est-ce que tu as comme surprise, par exemple?
Alors, par exemple, j'ai sorti 2 formations en ligne il n'y a pas très longtemps. Donc, j'en ai sorti une sur Tinder, sur comment avoir des matchs. Donc, la promesse, c'est d'avoir 10 à 30 matchs par semaine, même si les gens se considèrent comme moches. Donc, c'est la promesse de la formation. Et ensuite, j'avais fait une deuxième formation qui s'appelait « Comment passer de moche à beau gosse ». Donc ça, c'est ce qu'il y a des clients qui en coaching qui se plaignaient parce qu'ils ne se considéraient pas beaux. Et les mecs voulaient devenir, ils se considéraient comme moches, ils voulaient être beaux gosses. Je te schématise un peu leur objectif. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vendu ces formations, les ventes, j'ai fait uniquement par email. Et en fait, tout simplement, j'ai fait une séquence email sur une semaine entière pour la vente de la formation. Et j'ai été surpris parce que la formation Comment avoir des matchs sur Tinder, j'ai fait 5-6 fois plus de chiffre d'affaires que l'autre formation, comment passer de moche à beau gosse. Alors que dans les deux cas, les gens me notifiaient un besoin en coaching. Donc du coup, je me suis dit, les deux formations, elles marcheront à peu près correctement puisque le besoin était validé en coaching. Il y a autant de gens qui ont envie d'avoir des matchs sur Tinder que de gens qui ont envie de se transformer en beau gosse. Du coup, le résultat auquel je m'attendais, c'est que je me suis dit, les formations marcheront à peu près de la même façon. Et déjà, la première surprise, ça a été au niveau du chiffre d'affaires. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième surprise, ça a été aussi au niveau des taux d'ouverture des emails. Par exemple, pour la séquence mail sur la formation Tinder, j'avais réussi à avoir des taux d'ouverture qui allaient entre 25 et 30 %. Et sur la séquence email de l'autre formation de Moshe Bogos, je dépassais difficilement les 20%. Donc, il y avait une différence à la fois en termes de chiffre d'affaires et de taux d'ouverture. Alors que, comme je disais avant, en coaching, dans les deux cas, il y avait un besoin qui était identifié. Donc, et ça s'est passé en décembre et début janvier. Donc, en fait, toujours aujourd'hui, voilà, je m'actualise moi-même sur le besoin des gens parce que des fois, on pense avoir bien compris ce dont ont besoin les gens. Mais quand concrètement, on propose du matériel et des emails pour aider les gens, des fois, on a des surprises.
Il y a beaucoup d'effets de mode dans le milieu du marketing. Vous voyez, tout d'un coup, les gens ont envie d'apprendre sur un nouveau sujet. Ça se renouvelle beaucoup. Bon, bien sûr, il y a eu le dropshipping, la mode qui ne meurt pas et qui renaît de ses cendres tous les 5 ans. Mais il y a eu aussi, par exemple, à une époque... tout ce qui était copywriting, ce n'était pas un grand sujet. Et puis après, c'est devenu un sujet qui est intéressant. Actuellement, on a les emails quotidiens. Enfin, il y a tout un tas d'effets de mode dans mon domaine, le domaine du marketing. Au niveau de la séduction, est-ce que tu remarques la même tendance ? C'est-à-dire, est-ce que les besoins des gens changent au fil du temps ? Est-ce qu'il y a des effets de mode ? Est-ce qu'il y a des tendances comme ça un peu dans le marché que tu as remarquées qui ont changé au fil du temps où toi, tu as été actif dans la communauté, même avant que tu aies ton site et à l'époque où tu étais actif sur des forums ou autres ?
Alors, pour moi, il y a deux gros changements tendance, on va dire, sur ces 4-5 dernières années, on va dire. Parce que, bon, déjà, le besoin de fond, c'est-à-dire les coachings séduction à qui ça s'adresse à des gens qui sont majoritairement timides, introvertis et qui ont du mal avec les nanas. Et que ça se passe il y a 10 ans, 20 ans ou aujourd'hui, si tu veux, ça change pas. Et le fond, c'est-à-dire ce que tu vas enseigner à ces gens-là, c'est-à-dire voilà comment il faut parler avec une femme, comment il faut se tenir, comment faire attention à la voix, qu'est-ce que tu fais au premier rendez-vous, etc. Ça change pas vraiment, c'est un truc qui reste à peu près constant. Par contre, on va dire qu'il y a deux grosses tendances en ce moment. La première, c'est au niveau des applications de rencontres. Aujourd'hui, il y a un petit peu un effet de mode sur les photos, et en tant que photographe, je suis bien placé pour le savoir, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mecs qui s'en rendent compte que pour avoir du succès, pour attirer massivement des nanas, que ce soit sur Tinder, Mythic ou n'importe quel autre site de rencontre, il faut avoir des putains de photos. Il y a des gens qui sont en train de se rendre compte de ça, de plus en plus au fil du temps. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu un effet de mode où les gens se ruent vers les photographes les moins chers pour avoir des photos qui déchirent. Sauf que c'est ça qui est assez rigolo, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, un photographe pas cher, en général, il fait des photos assez bof, on va dire, assez banal, et ça les débloque pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ces gens-là qui vont aller voir des photographes pas chers, ils finissent par atterrir chez moi parce qu'ils se rendent compte que leurs photos ne fonctionnent pas. Et du coup, ils tapent sur Google les mots-clés qui vont bien pour essayer de se débloquer. C'est comme ça qu'ils atterrissent chez moi. Donc aujourd'hui, il y a une tendance de fond à associer la séduction avec les photos parce que de plus en plus de gens s'intéressent aux applications de rencontre et je suis le premier défenseur des applications de rencontre, malgré tout ce que pourront dire les gens, je considère qu'aujourd'hui, c'est une chance que n'avaient pas nos parents et nos grands-parents. Et quand je passais mon temps à draguer du lundi au dimanche, il y a un an et demi, 2 ans, j'utilisais massivement les applications de rencontre. Et c'est comme ça que j'avais des rendez-vous quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui, je suis un fervent défenseur des applications de rencontre et de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc ça, ils s'intéressent par voie de cause à effet au shooting photo, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas de besoin, tout simplement. Les gens, ils s'en foutaient d'avoir des belles photos d'eux. Mais là, aujourd'hui, la concurrence, elle est tellement forte que si tu veux te démarquer, tu es obligé de passer par la case « je vais poser devant un photographe ». Tu n'as pas le choix aujourd'hui, tu ne peux pas faire autrement. Donc, il y a cette tendance de fond qui s'est amorcée il y a 2-3 ans et à mon avis, qui va continuer de croître. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, t'as une autre tendance de fond qui est, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est MeToo, harcèlement, féminisme, etc. Il y a cette tendance de fond qui va avoir plusieurs effets. Premier effet, c'est que les gens vont moins s'intéresser au coaching street, c'est-à-dire ils vont avoir moins envie d'aller aborder dans les filles dans la rue parce qu'ils considèrent que c'est dangereux, qu'ils vont aller en prison, qu'ils vont avoir des amendes, etc. C'est pas vrai, hein, bien sûr, mais les gens, c'est ce que pensent les gens. Ensuite, derrière, en rendez-vous, ils vont être moins proactifs parce que les mecs, ils vont se dire « Ah ouais, mais si je la chauffe un peu trop, ça va être un peu dangereux, ça va être un peu ambigu. » Et du coup, en fait, les gens se détachent petit à petit du coaching et du fait d'aborder dans la rue pour s'intéresser encore davantage aux applications de rencontre parce que justement, c'est moins risqué, c'est moins touché par ce phénomène, donc le phénomène MeToo, que ne peut l'être le street. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les tendances de fond qui travaillent. Et dernier truc aussi, donc pour la tendance de fond MeToo compagnie, il y a une partie des gens qui se répercutent vers les applications de rencontre et vers les applications qui font moins de street. Il y a aussi une partie des gens qui choisissent délibérément de tourner le dos aux femmes, de se dire « les femmes, j'en ai marre, je considère que les règles du jeu sont truquées, qu'elles aillent se faire voir, maintenant je vais faire ma vie ». Et c'est comme ça qu'a émergé le phénomène MGTOW, je ne sais pas si tu connais, MGTOW.
Tu peux définir, je suis familier avec le concept, mais je pense que tu peux le définir pour les auditeurs. Je ne suis pas sûr que tout le monde en a entendu parler.
Alors, très rapidement, le phénomène MGTOW, comme beaucoup de choses, ça vient des États-Unis, hein, bien sûr. Et en fait, c'est un groupuscule masculiniste qui se veut réactionnaire par rapport aux féministes et qui dit « Je considère qu'aujourd'hui, que le jeu est truqué, que je n'ai pas ma chance, que les femmes, c'est toutes des connes, qu'il y a MeToo, que machin. » Donc, je considère que ça ne vaut pas le coup d'aller draguer des nanas et encore moins d'aller me poser avec une nana, d'aller me marier et de faire ma vie avec. Et du coup, qu'est-ce que vont faire ces gens-là? Ils vont tourner le dos aux femmes et en fait, ils vont être dans la haine tout simplement. Ils vont être dans le rejet, ils vont être dans le rejet des femmes, le rejet de la société. Et en fait, c'est un groupe qui rejette beaucoup de choses et qui dit bah, « maintenant, je m'occupe de mon boulot, je m'occupe de ma vie, mais sans m'occuper des femmes ». Et aujourd'hui, c'est un petit peu la résultante de ce phénomène MeToo. Donc, comme je disais, d'un côté, il y en a qui vont se ruer sur les applications de rencontre, et de l'autre, il y en a qui vont être dans le rejet. Et c'est un petit peu les tendances de fond d'aujourd'hui du milieu de la séduction.
Et ce mouvement-là, il a un impact sur toi, parce que du coup, j'imagine que ces gens-là ne sont pas du tout dans ton marché cible. C'est un truc que tu utilises dans ton marketing ou est-ce que tu essayes de le désamorcer dans ton marketing? Comment est-ce que ça t'affecte, toi, cette tendance-là?
Alors, au niveau des applications de rencontre, j'ai pas de certitude. Je pense que ça m'amène davantage de clients, mais encore une fois, c'est impossible à mesurer. Tu peux pas mesurer les gens qui autrefois draguaient dans la rue et qui ensuite se sont rués sur les applications de rencontre.
Je parlais spécifiquement des mecs qui vont rejeter les relations et se dire que tout ça, c'est une perte de temps. Est-ce que c'est un truc dont toi, tu joues? Parce que j'imagine que ces gens-là, du coup, vont jamais être clients chez toi. Comment est-ce que ça t'affecte cette tendance-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est un paramètre malgré tout dans la manière dont tu communiques?
Alors, deux choses. Donc, la première, c'est effectivement les gens qui sont dans le rejet, c'est-à-dire qui sont dans le mouvement MGTOW, compagnie, c'est des gens qui, par défaut, tournent le dos aussi au coaching séduction, parce qu'ils considèrent que les coachings, c'est de l'arnaque, que c'est de la merde, que ceci, que cela, malgré tout ce que tu pourras leur expliquer, malgré tous les témoignages, les machins, les audios, tu peux leur montrer n'importe quoi, ils ne t'écouteront pas. Donc en fait, ces gens-là, je pense qu'ils atterrissent même pas sur mon site. Donc du coup, il y a un tri d'office qui est fait parce que ces gens-là rejettent par défaut toute forme de coaching. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un impact effectivement qui s'est fait sentir, mais pour la partie street. C'est-à-dire que quand je débutais l'activité de coaching, j'avais à peu près une répartition 50-50. C'est-à-dire j'avais à peu près autant de gens qui s'intéressaient aux applications de rencontre que de gens qui s'intéressaient au street, à la drague de rue. Je dis beaucoup le mot street, mais street, ça veut dire drague de rue. Donc, c'était à peu près 50-50. Ensuite, il y a eu le truc MeToo qui est apparu. Donc, ça devait être début 2018, si je me souviens bien. Et à partir de ce moment-là, chute drastique des candidatures, comme pour moi, comme pour mes partenaires, parce que je travaille avec d'autres partenaires qui font aussi des coachings séduction. Et on a tous remarqué une chute dans les candidatures et dans le chiffre d'affaires des coaching streets. Heureusement pour moi, je proposais d'autres choses. Je proposais des refonds de profil Tinder et du coup, je n'ai pas tellement été impacté. Mais par contre, il y a une transition, c'est-à-dire j'ai augmenté le chiffre d'affaires que je faisais sur les refonds de profil et celui sur le coaching street a diminué. Donc ça, c'était le premier impact. Il y a eu un autre impact derrière, c'est-à-dire que les personnes qui postulaient pour les coaching streets, eh ben, elles ont commencé à me dire est-ce que c'est une bonne idée d'aller aborder dans la rue? Parce qu'avec MeToo, machin, j'ai l'impression que c'est interdit. J'ai l'impression que si je vais voir une femme, que je lui dis qu'elle est jolie, machin, que je vais me faire traiter de harceleur. Je me dis, la nana, elle va crier, elle va faire ci, elle va faire ça et tout. Et ce que j'ai remarqué, c'est en fait, les gens ont commencé à poser des questions qu'ils ne posaient pas avant. Avant, les mecs, ils arrivaient, ils disaient, bah voilà, j'ai peur d'aborder les filles dans la rue, aide-moi. En gros, c'est ça. Et ensuite, ça a changé. La personne dit, j'ai envie d'aborder les filles dans la rue parce que je croise tous les jours des filles qui me plaisent, mais j'ai peur et j'ai encore plus peur aujourd'hui parce que les médias disent que c'est pas bien, les féministes disent qu'il faut pas déranger les femmes et tout le monde dit ça. Et du coup, en fait, tu as une étape supplémentaire dans la vente où tu dois convaincre la personne que non, elle va pas aller en prison en abordant des filles dans la rue. Et ça, c'est une étape qu'il n'y avait pas avant et qu'il a fallu rajouter effectivement bah, dans l'entretien, l'entretien qu'on accorde à tous nos élèves qui postulent.
C'est une nouvelle objection essentiellement, si on prend un langage marketing qui est survenu et qu'il faut désamorcer pour que la personne se sente à l'aise de faire le coaching.
Tout à fait.
La séduction, c'est un domaine qui est ultra concurrentiel et tu t'es lancé relativement récemment sur un domaine où il y a des milliards de sites. À ton sens, qu'est-ce qui t'a permis de te différencier ?
Alors pour moi, il y a deux choses qui m'ont permis de différencier. Le premier, ça a été le focus que j'ai toujours plus ou moins fait sur les sites de rencontres. Et sur ça, je vais être très clair. Autant je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de sites, tu vois, séduction, tu tapes séduction, machin, tu vas trouver des dizaines de sites. Par contre, qu'est-ce que font la plupart des concurrents dans la séduction ? Ce qu'ils font, ils proposent des coachings street. Ils font tout ça parce qu'en fait, le street, c'est le plus facile. C'est par défaut, tout le monde va proposer du coaching street. Par contre, si tu cherches sur Google, combien de personnes proposent des coachings pour les applications de rencontre tout en étant capable de produire des shootings photos de qualité et adaptés aux sites de rencontre ? On est très peu dans le marché, on est trois à le faire correctement seulement.
Donc, il y a pas c'est plus de un effet de la double casquette, d'à la fois comprendre les applications de rencontre et à la fois être capable de prendre des photos.
Ouais, et en fait, c'est ça qui est rigolo aussi dans ce marché, si on est seulement trois à dégager, on va dire, relativement, à avoir de vrais résultats, on va dire, parce que bon, je connais un petit peu tous les acteurs de la séduction. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se lancer dans la photographie et dans les refontes de profil. Le truc, c'est que contrairement au coaching street, c'est extrêmement technique. Les applications de rencontre, c'est avant tout de la technique. Et la photographie, c'est à la fois de la technique et du créatif. Et en fait, ça prend des années à devenir bon en photographie. Et au-delà de ça, tu as une difficulté supplémentaire, c'est que 90% des gens qui postulent pour faire une refonte de profil n'ont jamais posé en photo. C'est des mecs qui ne sont pas à l'aise, c'est des mecs qui vont avoir peur, ils ne vont pas être naturels devant l'objectif. Et en fait, c'est des compétences qui sont extrêmement difficiles à acquérir. Parce que par exemple, pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire pour être capable de mettre à l'aise les gens, de faire en sorte qu'ils soient naturels dans les photos pour pas que les photos soient trop retouchées, tout en ayant connaissance de comment fonctionne, par exemple, l'algorithme de Tinder, comment faire un profil qui fonctionne, qui soit stratégiquement intéressant pour les nanas, ça m'a pris des années à savoir ça. Et ça, c'est des compétences qui sont très difficiles à acquérir, alors que derrière, aborder des filles dans la rue, honnêtement, c'est pas très difficile. Je connais des gens, ils rentrent dans la communauté de séduction, ils font ça pendant 4 mois, 6 mois, et après, ils sont parfaitement aptes à faire du coaching. Ça ne demande pas tellement de compétences, en fait. Et donc, c'est essentiellement avec ça que je me suis différencié. Donc, ça, c'est la première axe de différenciation. C'est sur une micro-niche du marché de séduction où il y a très peu de concurrents, tout simplement parce que les compétences sont très difficiles à avoir. Et il y a des gens qui ont essayé de se lancer dedans. Ils sont tous cassés la figure au bout de quelques mois. Donc, en fait, si tu n'es pas très bon là-dedans, tu ne dures pas longtemps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième axe de différenciation, c'est plus au niveau marketing et positionnement. C'est-à-dire, tu vas dans beaucoup de sites de séduction, il y en a beaucoup qui… par exemple, tu vas sur les sites de séduction mainstream, ils vont avoir tendance à, on va dire, édulcorer la séduction, à dire « soyez vous-même, faites de votre mieux, blablabla », tu sais, un petit peu des grandes phrases pour encourager les gens, un petit peu du populisme, on va dire, c'est-à-dire dire ce que les gens veulent entendre. Et beaucoup de sites sont positionnés là-dessus, notamment les sites mainstream. Et j'ai pris le positionnement opposé, c'est-à-dire j'ai pris, alors j'ai pas d'autre mot pour le qualifier que underground, j'ai pris volontairement un positionnement un peu plus underground où j'adopte un langage très familier, très cru, où j'hésite pas à dire aux gens, voilà, vous allez rencontrer cette femme, vous allez la dater, vous allez lui dire qu'elle vous plaît, vous allez dire que vous avez envie d'elle, vous allez lui dire tout ça. Donc, il y a un positionnement beaucoup plus direct, beaucoup plus underground qu'on ne retrouve pas dans les coaching séduction mainstream. Et ça, ça a été mon deuxième axe de différenciation. Et du coup, j'attire énormément de gens, en fait, qui tombent sur mon site et qui adorent, qui sont fans, justement, de ce ton très directif, très concret, très direct, parce que, justement, ça change de ce que tu vois sur les sites mainstream. Et tu sens que, voilà, que ce gars-là, il n'est pas là pour raconter des salades, il n'est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Il est là pour dire la réalité, même si parfois ça fait mal. Mais par contre, il est là, voilà, pour dire la réalité, pour dire les choses telles qu'elles sont. Après, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, hein, bien sûr. Mais ça a été mon deuxième axe qui a fait que je peux me démarquer des très nombreux autres sites de séduction qui existent.
Ce positionnement polarisant, tu l'as eu dès le premier jour ?
Alors ouais, en fait, j'ai eu dès le départ, tout simplement parce que, alors j'en parlais au début du podcast, en fait, au début, c'était un blog. Et sur un blog, je racontais mes histoires de drague. Et je le racontais, mais d'une façon extrêmement crue, à tel point que de temps en temps, il y avait des femmes qui tombaient sur mon blog à l'époque, même s'il n'était pas très connu. Et alors là, je te jure, je me faisais lyncher en commentaire. Je me faisais lyncher, mais d'une force. Et les femmes qui postaient, qui disaient « Ouais, mais tu te prends pour qui ?» machin et tout. Donc au début, j'étais extrêmement polarisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, j'ai un peu plus adouci pour que le site y passe quand même un petit peu mieux. Mais par contre, effectivement, j'avais adopté dès le départ les prémices du site, une polarisation assez forte.
Une question que je me pose, c'est… Est-ce que tu as pensé vraiment à réorienter l'ensemble de ton site sur le concept de Tinder ? Parce que quand on arrive sur ton site, tu vois, on a différentes offres. Et comme tu dis que Tinder, c'est le truc qui t'a vraiment différencié, je me demande si tu ne pourrais pas refondre le truc entier autour de cette proposition de valeur ultra tranchante. Tu vois. Parce qu'il y a tellement de monde sur Tinder aujourd'hui. Et il me semble que quand tu vas sur… je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quand tu vas sur… le Play Store sur Android, par exemple, c'est une des applications qui rapporte le plus d'argent. En tout cas, moi, quand j'y vais, je ne sais pas si c'est un effet de géographie et tout, mais j'ai l'impression que c'est des applications qui sont devenues ultra plébiscitées. Pourquoi ne pas abandonner le côté drague de rue, etc., et te focaliser uniquement sur Tinder ? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu continues à offrir ces différentes options ?
Alors, deux choses sur ça. Donc, le premier, effectivement, tu fais bien d'en parler. Aujourd'hui, petit à petit, je suis en train d'orienter encore davantage qu'il ne l'est déjà le site sur Tinder. Et pour ça, en fait, je vais faire un focus qui sera principalement porté sur les formations en ligne. Aujourd'hui, j'ai une formation en ligne qui existe sur Tinder qui permet d'avoir plus de matchs, tout simplement. Donc, la promesse, voilà, c'est d'avoir 10 à 30 matchs par semaine. Avec une mini-formation que je propose pour les gens qui ne connaissent pas forcément le site, qui permet de construire un profil Tinder qui plaît aux femmes en 30 minutes. Et ça, c'est un truc que j'affiche sur la page d'accueil. Et ça, si tu veux, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est là, je suis en train de travailler sur deux autres formations que je suis en train de faire. Donc là, tu as la première formation qui est « Comment avoir des matchs ?» Ensuite, tu vas avoir la deuxième formation « Du match au rendez-vous ». Et ensuite, tu auras une troisième formation « Du rendez-vous jusqu'à la baise ». Et ça, ces trois formations, ça va faire un système justement qui va permettre de multiplier ces résultats sur Tinder. Et une fois que ces formations seront terminées, je vais orienter le focus et notamment la page d'accueil du site sur justement ce système. Donc ça, c'est en cours de construction, c'est pas terminé aujourd'hui. Et comme cette offre, elle n'est pas encore constituée, c'est pour ça que si tu vas sur ma page d'accueil ou dans divers onglets, aujourd'hui, tu trouves encore une offre portée sur le street et des choses un peu plus généralistes, parce que justement, ça permet de compléter ce que propose le site. Par contre, à terme, effectivement, ce que je pense faire, c'est le supprimer pour ne garder que tout ce qui est site de rencontre. Par contre, je pense que je vais maintenir, ça, c'est pas encore décidé, mais je pense que je vais maintenir une offre de coaching street parce que la demande reste quand même assez forte. Et il y a, si tu veux… Il y a des gens qui atterrissent sur mon site. Alors, je ne sais pas exactement comment ils atterrissent sur mon site, mais il y a des gens qui atterrissent sur mon site et qui ne s'intéressent pas forcément aux applications de rencontres. Et ça constitue quand même une part non négligeable des gens. Et pour l'instant, ces gens-là, on a décidé de ne pas les perdre et de continuer de proposer un coaching street. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Par contre, effectivement, je n'exclus pas dans les 3 à 6 mois de supprimer cette offre-là pour ne concentrer que sur, sur Tinder et les applications de rencontres.
Ok, je vois. Mike, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour pouvoir boucler ces émissions. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Alors, grande question. le truc que je lui dirais, c'est de s'intéresser plus tôt à tout ce qui est entrepreneuriat, marketing, vente, etc. Parce que pendant très longtemps, j'étais effectivement, parce qu'à la base, je viens d'un corps technique, je m'intéressais à des trucs, des trucs d'ingénieur, quoi, programmation électronique, machin. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur ça, au début de mes 20 ans, je sentais qu'il y allait un moment où ça ne me passionnerait plus, où je voudrais autre chose. Et ce que je regrette un petit peu, c'est d'avoir retardé ce moment et de m'être intéressé assez tard à tout ce qui est business, vente, etc. Je pense que si je m'y étais intéressé plus tôt, j'aurais pu aller plus vite que la vitesse où je vais aujourd'hui. Donc, à bon moi-même de 20 ans, je dirais, va sur YouTube et au lieu de regarder des vidéos de chats ou des conneries comme ça, va voir des vidéos sur comment apprendre à vendre. Au lieu de regarder des séries, au lieu d'aller regarder, Game of Thrones, Stargate, ce que tu veux, au lieu de regarder des séries, de passer tes soirées à faire ça, intéresse-toi à l'entrepreneuriat. Intéresse-toi à des choses concrètes qui vont t'apporter quelque chose dans la vie. Parce que autant les séries, c'est sympa, c'est cool, ça te fait des bons souvenirs. Mais avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, c'est essentiellement du temps perdu.
Tu regardes encore des séries aujourd'hui ?
Pas du tout. J'ai complètement lâché. La seule série que je vais regarder, alors je crois que c'est en mars ou avril, c'est Game of Thrones. Et c'est la seule, tout simplement parce que en fait, je la regarde avec ma copine. C'est une des rares séries que je regarde avec elle. Sinon, j'ai complètement lâché le truc. Même des films, j'en regarde beaucoup moins qu'avant. Idem les jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'y jouais énormément quand j'avais autour de 20 ans. Bon, parce que j'en ai pas trop parlé, mais je suis un ancien geek. À l'époque, je faisais de la compétition sur plusieurs jeux, des jeux comme Warcraft et compagnie. Je faisais de la compétition sur ça quand j'avais autour de 20 ans. Et je passais 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour parfois. Des fois, j'étais vraiment comme un fou. Je passais ma vie devant le PC. Et avec le recul, j'ai un peu de nostalgie sur ça parce que bon, c'est une période sympathique, mais je trouve aussi que c'est pas mal de temps perdu parce que concrètement, au niveau de ta vie, ça n'a pas vraiment d'impact en fait. Ça va te créer des bons souvenirs. Tu vas te dire « Ah ouais, c'était sympa, quand je jouais contre un tel, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. » Mais avec le recul, tu dis « J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autre chose pour avoir un impact plus concret justement sur ma vie. » Et donc voilà, si je devais revenir en arrière, j'accélérerais un petit peu tout ça. Je dirais, désintéresse-toi un petit peu tout ce qui est les jeux vidéo, machin, et intéresse-toi sur la construction de ta vie.
Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Alors, il y a un livre que je peux recommander sur la séduction. Ça va pas être un livre de marketing compagnie.
Vas-y, parfait.
Un livre sur la séduction que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui est en anglais par contre. Ça s'appelle The Rational Male, l'homme rationnel. Je ne sais plus qui est le nom de l'auteur. Et c'est un livre que j'ai trouvé très frappant parce que, en fait, c'est un livre qui explique les rapports hommes-femmes, la psychologie qu'il y a derrière. Et en gros, ça te montre, c'est un peu un livre underground qui va te raconter les dessous de la séduction. Parce que quand tu écoutes les médias mainstream, on te dit toujours, voilà, séduction, il faut être soi-même, il faut être cool, il faut être beau, il faut avoir de l'argent, etc. etc. On dit toujours des trucs assez généralistes. Et ce que j'aimais dans ce livre, c'est qu'il dit, la nana, autant dire de façon directe, la nana, elle cherche le meilleur partenaire. Le meilleur partenaire, c'est quoi ? C'est tel attribut. La nana, quand elle a 18 ans, 20 ans, elle va avoir tendance à faire ceci, cela. La nana, quand elle a 30 ans, elle va changer d'état d'esprit, elle va faire autre chose. La nana, quand elle a 40, elle va faire encore autre chose. Et en fait, c'est un axe que je trouve vachement intéressant et que j'ai retrouvé dans aucun livre de séduction en France, parce qu'il y a très peu de livres de séduction en France, et qui apprend un petit peu le côté caché, le côté underground des rapports hommes-femmes. Donc ça, c'est un livre que je recommande beaucoup. Il y en a un deuxième aussi que je conseille beaucoup plus. C'est j'ai plus le nom de l'auteur, c'est un livre qui s'appelle « Trop gentil pour être heureux ». Et ça, c'est un livre que j'ai lu quand je devais avoir 23 ou 24 ans. Et c'est un livre qui m'a foutu une claque, mais t'imagines même pas. Et je le conseille à tous les hommes qui se considèrent comme trop gentils avec les femmes. Et en fait, c'est un bouquin qui a été écrit par un docteur en psychologie, je crois. Et en fait, le mec t'explique, par A plus B, pourquoi les hommes sont gentils avec les femmes. Et il t'explique qu'en fait, c'est une forme de manipulation. Qu'en fait, les gens, les hommes, ils ne sont pas gentils avec les femmes parce que c'est des gens gentils. En fait, il explique que c'est une forme insidieuse de manipulation où tu vas appliquer un peu ce que tu apprends dans influence et manipulation. C'est un peu le principe de réciprocité, c'est-à-dire et de sympathie. C'est-à-dire, voilà, tu vas inviter la nana au resto, tu vas être gentil, machin, parce que tu attends quelque chose en retour. Et en fait, ce n'est pas du tout innocent. Alors que les gens qui sont très gentils avec les femmes, ils se considèrent un peu comme des altruistes. Ils se disent, ouais, moi, je suis gentil, je suis un homme gentil, etc. Mais quand tu lis ce bouquin, en fait, tu te rends compte que tu es gentil parce que tu essayes d'obtenir quelque chose de la femme en étant gentil. Et en fait, c'est un peu une forme de manipulation. Et quand tu refermes ce bouquin, tu l'as terminé, tu dis, putain, ah ouais, c'est… En fait, ma stratégie, c'était ça. J'étais gentil parce que je veux quelque chose envers la femme. En fait, les femmes, ça les fait fuir parce que les femmes, elles ont un sixième sens. Elles sentent quand un mec est gentil et qu'elle attend que cette personne-là, que ce mec-là, attend quelque chose derrière. Elles ne sont pas connes, hein, les femmes. Les femmes, elles arrivent très bien à sentir ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'hommes gentils n'arrivent pas à séduire, à se taper des femmes, parce que les femmes sentent que cette gentillesse n'est pas désintéressée, qu'il y a quelque chose derrière. Mais ces hommes gentils, tu leur poses la question, ils vont dire « Ah non, je suis un mec gentil parce que je suis gentil, parce que voilà. » Alors qu'en fait, derrière, c'est une forme de manipulation. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment frappant et je le conseille à la plupart de mes coachés. Je l'ai conseillé de très nombreuses fois dans mon groupe privé. Et tous ceux qui l'ont lu, ils étaient tous très contents. Ça leur a retourné le cerveau. Et à partir de là, plus jamais ils se posent la question, est-ce que je dois être gentil avec les femmes ou pas? Et du coup, ils vont mettre l'effort sur d'autres choses, sur ce qui est vraiment important. Et c'est pas la gentillesse.
Donc, c'est un livre qui t'explique ton propre comportement. Il me semble connaître ce livre en anglais. Ça s'appelle No More Mr. Nice Guy. C'est le même?
Alors, je ne saurais pas dire avec certitude, mais c'est probablement le même.
Ça ressemble exactement à ce livre-là.
Tu l'as lu aussi, c'est ça?
Dont j'ai beaucoup entendu parler. En fait, j'ai jamais été aussi gentil que ça. Donc, en fait, si tu veux, ça ne m'a pas autant frappé que ça quand je l'avais lu. Mais je me sens que c'était un des bouquins qui a toujours été extrêmement recommandé. Effectivement, c'est écrit par un gars qui est psychologue, donc du coup, ça sort aussi un peu du style habituel des bouquins de séduction, et c'est peut-être un peu plus dans le côté clinique d'un gars qui a traité pas mal de gens dans ces situations-là et qui en fait explique que mais globalement le concept moi m'avait toujours beaucoup intrigué, qui était que les gens choisissent toujours l'interprétation la plus positive de leur comportement. En fait, dire que si quelqu'un a peur de faire quelque chose, il va se dire qu'en fait non, il a pas peur, c'est que en fait c'est pas bien de le faire, tu vois, ou il fallait pas faire comme ça. Donc les gens qui ont peur d'être direct, par exemple, vont se dire que les gens qui sont directs, ils sont méchants ou ils sont, si c'est un truc, tu vois, de business, de marketing, ils sont avares. Alors qu'en fait, souvent, c'est que tu n'oses pas vendre. Et là, du coup, je fais le parallèle volontaire avec le côté marketing. Mais quand les gens disent, vendre à son audience, ce n'est pas bien, etc. Souvent, c'est qu'ils ont un blocage interne. Mais du coup, plutôt que se dire que j'ai un blocage interne, c'est plus intéressant de se dire que les autres sont méchants.
Tout à fait.
Et que donc tu peux être aveugle à ta propre motivation.
D'ailleurs, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, je crois. Parce que ça, c'est un truc que on n'en a pas parlé, mais c'est un truc que j'avais effectivement au début quand je démarrais en activité et qu'il a fallu que j'apprenne la vente. Donc j'avais ce syndrome de l'imposteur. Exactement le même que quand tu apprends la drague et que tu dis, je vais aborder une femme. Au début, quand tu apprends la drague, tu n'oses pas être direct. Tu n'oses pas. Quand tu es dans le canapé avec une nana à côté de toi, qu'elle est belle, tu sens son parfum, tu vois ses beaux cheveux, ses yeux bleus, etc. Tu n'oses pas la regarder dans les yeux et lui dire « j'ai envie de te baiser ». Tu n'oses pas lui dire ça, tu vois. Tu te dis « elle va hurler, elle va crier au violeur, elle va se barrer, etc. Et ça, c'est ce qu'on a tendance à croire avec le discours MeToo, machin. Ce qu'on se dit, si je dis ça avec une nana, elle va me jeter. Alors que c'est totalement faux, en fait. Parce que la magie, c'est qu'en faisant ça, et ben justement, la nana, c'est comme ça que tu couches avec, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux élèves. Et le parallèle que je fais avec la vente, c'est en fait, quand j'ai commencé à apprendre la vente, j'ai eu exactement le même problème. Je me rappelle très bien, quand j'ai commencé à faire mes entretiens de vente, les entretiens gratuits qu'on propose aux élèves qui prennent les plus grosses formules, donc des packages à 1 000, 1 500 euros typiquement, au début, je n'étais pas à l'aise. C'est-à-dire, je me rappelle très bien. Donc, le gars, il m'explique de quoi il a besoin. Je lui dis, OK, on peut te proposer ça, machin et tout. Et là, tu as la question fatidique qui tombe. Le mec, il te regarde avec ses grands yeux et il te fait, mais combien ça va me coûter tout ça? Et là, je me rappelle au tout début, là, grosse tension. Là, j'ai mes yeux, ils partent dans tous les sens. Et là, je fais, ça va coûter 1 200, 1 500 euros. Mais t'inquiète pas, tu peux payer en plusieurs fois et c'est satisfait, remboursé et machin. Et je partais un peu dans tous les sens, tu vois. Et évidemment, je ne vendais pas. Parce que le gars, il sentait mon stress. Et du coup, le gars, il s'est dit, je vais pas payer un gars 1 200 euros alors qu'il n'est pas à l'aise quand il parle de ça, tu vois. Et en fait, j'avais le syndrome de l'imposteur au départ parce que je me disais, en fait, j'ai honte de vendre. Au début, j'avais ça. Et c'est un truc que tu n'apprends pas dans l'école d'ingénieur. C'est même pire que ça. Dans le métier d'ingénieur, les commerciales, on se fout de leur gueule. On dit que les commerciales ne servent à rien parce que dans le métier de l'ingénierie, on dit quand tu as un bon produit, quand tu as un produit qui est bien fait, qui plaît au client, tu n'as pas besoin d'un commercial. Ça, c'est ce qu'on t'apprend en école d'ingénieur. Donc du coup, quand on voit le commercial qui se promène avec son costard machin, on lui dit, tiens, ce mec, il sert à rien. Et du coup, quand moi-même, j'ai commencé à vouloir vendre, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tort. Tous mes collègues avaient tort. Parce que je me suis rendu compte, tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu ne sais pas expliquer à l'autre en quoi ton produit est le meilleur et le vendre et le convaincre de débourser 1 000, 1 500 euros pour te faire confiance. Alors là, tu vas rester au chômage toute ta vie, hein, si c'était comme ça. Et au début, j'avais ce syndrome, moi, de l'imposteur. C'est-à-dire, les gars, dès qu'on parlait du prix, je me sentais pas légitime, en fait. Et bizarrement, ça se ressentait dans les coachings. C'est-à-dire, au début, quand je proposais des packages moins chers, quand je proposais des trucs genre 200, 300, 400 euros, j'arrivais à les vendre parce que c'était à prix encore accessible. Par contre, quand j'étais en coaching, la personne, tout le temps, elle était en train de me challenger. Elle me disait, ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment un coach? Ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment bon? Ah ouais, est-ce que tu peux me montrer ce que tu vaux? Elle était tout le temps en train de me challenger. Et ensuite, j'ai appris à vendre. J'ai appris aussi à faire preuve d'autorité dans les coachings, dans la façon dont on vend les coachings. Et non seulement les gens nous font confiance aujourd'hui, et on fait toujours satisfaire remboursé, bien sûr. Et on a jamais remboursé la moindre personne parce que tout le monde, 100% est satisfait. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte que la personne, elle ne te challenge plus durant le coaching. Au lieu de perdre son temps et de dire « Ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Elle va prendre pour argent comptant ce que tu lui dis et elle va appliquer sans poser de questions. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'en fait, apprendre à vendre, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça te permet de gagner ta vie tout simplement en expliquant aux gens pourquoi tu vas pouvoir les aider et pourquoi ton produit ou ton coaching est le meilleur. Et le deuxième truc, c'est que durant le coaching en lui-même, la personne ne va pas te challenger, ne va pas te poser de questions. Elle va t'écouter et elle va appliquer. Et en fin de compte, tes coachings deviennent de meilleure qualité.
Intéressant. Et du coup, c'est le concept essentiellement du positionnement que tu as avec les gens et la manière dont ta confiance en toi se reflète là-dedans. Et le fait que si les gens ont payé pour quelque chose, ils le respectent. Il y a toujours une grande énigme, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à prendre des conseils gratuits et les appliquer? C'est parce que s'ils n'ont pas payé pour ces conseils, ils ont parfois du mal à les prendre au sérieux et à les respecter.
Ah, tout à fait, totalement. Ouais.
Et là, du coup, il y a un petit élément annexe de ça qui est marrant, c'est le principe de cohérence, c'est-à-dire que le principe de cohérence te dit que tu es cohérent avec tes actions précédentes. Donc, si j'ai payé ce mec-là assez cher pour un coaching, le fait que je t'ai payé renforce en plus la légitimité que tu avais déjà. Donc, tu avais déjà de la légitimité pour me convaincre de payer un truc. Maintenant qu'en plus, je t'ai payé, j'ai prouvé que je te faisais confiance. Et donc, du coup, ça renforce encore ta légitimité.
C'est ça.
Et ça, c'est un truc qui est. Bon, là, on a parlé de coaching en séduction, mais moi, je travaille avec beaucoup de freelance et c'est un truc qui est universel pour les freelance. C'est-à-dire qu'un freelance qui se vend pas cher va être constamment sur des clients chiants, alors qu'un freelance qui se vend cher, paradoxalement, va avoir des clients beaucoup plus faciles
Tout à
parce
fait.
que c'est des clients qui lui font confiance et aussi souvent, c'est des clients de meilleure qualité qui ont plus de budget ou qui ont un business plus développé, qui ont aussi d'autres chats à fouetter qu'aller pinailler sur le travail du freelance.
Ouais, j'irais même encore plus loin, je dirais même que plus tu vends ton coaching cher et plus la personne te fait confiance et par principe de cohérence, justement, va suivre et appliquer ce que tu dis. Et petite anecdote aussi, quand je me rappelle quand je démarrais les coachings, effectivement, on proposait des coachings pas chers, hein, c'était peut-être 100, 200, pas plus. C'était vraiment limite du low cost en fait. Et au début, on attirait énormément d'étudiants. On attirait des étudiants, des gens au SMIC, etc. Et je peux te dire, c'est les clients les plus chiants que j'ai jamais eus. C'est les mecs, ils vont te payer une misère. Mais les mecs, ils vont constamment te solliciter, ils vont te demander des trucs en plus. Et le jour où tu réponds pas à ces questions, ou alors le jour où tu vas lui dire, ah ouais, mais pour faire ça, il faut qu'on se voit 1 heure, machin, les mecs, ils sont pas contents. Les mecs, ils vont t'incendier, tu vois. Et au début, quand j'avais cette population-là, c'était difficile, franchement. Niveau coaching, c'était des clients vraiment très chronophages et ultra exigeants. Et après, quand j'ai augmenté les prix des coachings, j'ai changé de population. Là, aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'étudiants, on n'a plus de gens au SMIC non plus. On a des cadres, des informaticiens, des ingénieurs. On a eu un cadre dirigeant aussi une fois, des commerciaux. Et c'est des gens pour qui considèrent en tout cas que bah, de verser une certaine somme pour se faire accompagner, c'est quelque chose de naturel en fait. Pour eux, c'est un peu comme si tu allais acheter une baguette de pain, ça coule de source. Et du coup, ces gens-là, bah, ils sont beaucoup plus clean, ils sont beaucoup moins chiants, ils vont écouter ce que tu dis, ils vont appliquer sans te challenger, sans poser de questions. Et j'ai toujours cette impression à chaque fois, plus la personne paye son coaching cher, et en fait, mieux ça se passe. C'est peut-être un truc que tu as remarqué avec les freelances. Et c'est ça, j'ai remarqué, plus que le coaching est cher, et plus la personne va t'écouter, va appliquer, et plus elle aura de résultats, forcément.
Pour faire un parallèle direct, tu regardes par exemple quelqu'un qui est développeur web, qui crée des sites web, ou quelqu'un qui est designer, toutes ces situations-là vont vivre exactement cette situation. Le rapport entre ton prix et la qualité de client que tu peux avoir. Ce qui pose aussi la question du fait que si tu ne sais pas vendre, non seulement tu vas avoir du mal à gagner ta vie, mais en plus ton job sera beaucoup plus pénible et que le fait d'être capable de vendre tes services te donne accès à une bien meilleure qualité de client. Un truc qui n'est pas négligeable, comme ça te permet de te convaincre que se former sur un sujet comme ça, c'est pas juste un truc d'avarice et de vouloir gagner plus d'argent, c'est aussi une manière d'améliorer ses relations professionnelles.
Tout à
Et
fait.
parce que très simplement, si tu gagnes la confiance des gens, et si tu démontres que tu es capable de gagner la confiance des gens, ce qui est essentiellement 80% du processus de vente, si tu fais un processus de vente au téléphone ou en face à face, ben tout d'un coup, les gens vont te faire beaucoup plus confiance, quoi, parce que tu as montré que tu pouvais en être digne et que tu étais capable de comprendre leurs problématiques et d'avoir confiance en ton offre et aux bénéfices que tu proposes. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens. Enfin, les gens te doivent pas en fait le respect que tu penses mériter dans un contexte professionnel. Et si tu n'as pas été capable, toi, de le montrer, de le vendre, de convaincre, hein, c'est compliqué d'attendre que les gens voilà, te respectent. C'est vrai que dans la vie personnelle, ben, on s'attend à ce que les gens nous respectent et que tout le monde soit un peu égal. Et c'est normal parce que c'est un truc un peu d'égalité humaine, etc. Mais dans un contexte professionnel, forcément, il y a des hiérarchies qui vont se mettre en place et il y a un rapport de force et un rapport de pouvoir, que tu le veuilles ou non. Et si tu n'es pas capable de comprendre qu'il y a ce truc-là qui est en place, et si tu penses que voilà, mes compétences devraient parler pour moi et je ne devrais pas avoir besoin de me vendre, tu passes à côté d'un paramètre qui est monstrueux et ça va dégrader grandement ton environnement de travail, tes relations, etc. Dernière question, on a fait un grand détour sur mes trois questions. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Il y en a deux que je peux te donner. Il y en a un que je dois avoir depuis 10 ans. C'est un proverbe arabe, je crois. C'est un proverbe qui dit « Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. » Et ça, c'est un truc, c'est un peu un leitmotiv que j'ai appliqué une grande partie de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me trouvais une excuse, je repensais à ce proverbe-là. Je me disais « Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ?» Et du coup, en fait, ça me boostait un petit peu dans ma productivité. Donc ça, c'est un peu un leitmotiv que je me disais souvent. Il y en a un deuxième qui est plutôt orienté drague, mais que tu peux appliquer aussi dans ta vie. Bon, ça va être un petit peu cru. C'est un truc qui dit « Celui qui attend, c'est celui qui se fait baiser. » Et ça, tu peux l'appliquer partout, que ce soit dans la drague ou dans le business. Et à chaque fois que je suis en position d'attente, je repense à ça. Parce que ça, tu peux le vérifier dans le business ou dans la drague ou même dans ton travail. Si tu es en position d'attente, il y a un moment, tu vas te faire baiser. Et à partir de là, quand tu as conscience de ça, ça t'oblige à toujours être en position de proactivité. Donc ça, c'est deux citations que je peux te donner, qui me viennent assez souvent à l'esprit.
Cool. Du coup, merci Mike pour ta participation. Donc, on redonne ton site, c'est dragueurdeparis.com. J'imagine que c'est le meilleur endroit pour retrouver des informations sur ce que tu fais.
Alors oui, il y a la page d'accueil qui oriente sur les principaux guides et produits qu'on propose. Ensuite, il y a deux autres endroits où les gens peuvent me retrouver. Le premier, alors ça s'adresse plutôt, s'intéresse à la drague, parce que les autres, ils n'auront pas un grand intérêt. C'est sur la chaîne de podcast. Donc, depuis le site, dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle podcast. Les gens peuvent me retrouver à partir de là. Ensuite, deuxième endroit, donc un autre onglet dans le menu qui s'appelle motivation. Et là, c'est tout simplement pour s'inscrire à ma liste privée email, parce que je communique depuis 1 à 2 mois énormément par email. Donc, je communique essentiellement là-dessus. Et donc, les gens peuvent me suivre et également entrer en contact à partir de cette liste email où chaque jour ou tous les 2 jours, en fonction des périodes, ils vont recevoir un email, recevoir un conseil gratuit de drague tous les jours. Un conseil gratuit de drague, de motivation, où on va parler de sujets un peu plus underground aussi. Donc voilà, ça s'intéresse plutôt aux gens qui s'intéressent à la drague, mais les gens peuvent me retrouver donc sur cette chaîne de podcast et sur cette liste email privée.
Super, merci Mike.
Merci Stan.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc la formation dont on a parlé avec Mike et que Mike a suivi quand elle est sortie s'appelle le Déclic. C'est une formation qui vous explique comment développer votre audience et surtout comment construire votre liste email. Cette formation, on travaille à la fois sur votre contenu pour rendre votre contenu plus persuasif et à la fois sur votre positionnement, sur comment trouver la bonne idée, la bonne manière de positionner les choses, d'expliquer ce que vous faites pour sortir du lot et pour pouvoir amener les gens à acheter votre produit ou votre service. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le meilleur point d'entrée pour pouvoir être exposé à cette solution, c'est de vous rendre sur marketingmania.fr/audience. qui est une formation gratuite que j'ai fait sur la construction d'audience qui vous amènera de fil en aiguille vers cette formation Le Déclic. Mais globalement, vous allez avoir beaucoup de conseils qui sont déjà gratuits et qui touchent à tous les thèmes mentionnés dans l'épisode directement en vous rendant sur marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.